Bienvenue sur La Romance Sénior-Nian, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Elle commençait déjà à s'installer dans les rayons de nos librairies au mois d'octobre. Les parutions et les ventes ne font qu'augmenter d'année en année. C'est un sous-genre qui a le vent en poupe. Je parle bien sûr des romances de Noël. Préparez-vous un verre de lait de poule. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Je ne pouvais décemment pas passer à côté de ce sujet pour la première saison du podcast. Les romances de Noël font partie des rendez-vous que l'on attend fin d'année. Enfin, pas tout le monde, je vous l'accorde. Mais on ne peut que remarquer, au fil des ans, l'engouement pour ce type de romance. Si on en retrouve chez quasiment tous les éditeurs de romances, les auteurs auto-édités ne boudent pas leur plaisir non plus. On peut même dire que la machine marketing est lancée pour nous faire aimer Noël, puisque l'on peut même trouver en librairie des box de romances de Noël contenant un livre et une tasse ou des chaussons sur le thème de Noël. Bref, le succès est au rendez-vous en fin d'année. Si vous aimez le podcast La Romance Sénior-Nian, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou donner des étoiles sur Apple Podcasts. Pour parler de ce thème, j'ai à nouveau fait appel à deux auteurs. Bonjour Laureline Momla et Élie Bonner.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir de vous recevoir.
Ben, merci de m'avoir invité.
Pareil, merci.
Dans cet épisode, nous allons parler de romances de Noël et en particulier de vos romances de Noël puisque vous êtes toutes les deux auteurs et vous avez des romans qui ont été publiés là récemment en cette fin d'année 2022. Avant cela, je vous laisse vous présenter. Laureline, tu as déjà publié plusieurs romans, dont un chez HarperCollins. Peux-tu nous parler un peu de toi et de tes romans ?
Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Laureline Momela. Je suis auteure à temps plein maintenant depuis quelques années. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça. C'est vrai que j'avais un peu mis ça de côté. J'avais privilégié, on va dire, l'image plus. J'ai beaucoup fait de photos pendant des années. Et donc, il y a quelques années, je me suis remise à l'écriture, notamment de nouvelles. Et que j'ai publié d'abord sur une plateforme qui s'appelle Short Edition. Et face au succès de mes nouvelles, ça m'a un petit peu confortée dans l'idée que je pouvais écrire. Donc je me suis lancée dans le roman. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit American Dream, qui est une comédie romantique, un feel-good, chick-lit, je ne sais pas, il y a plusieurs appellations, et voilà, j'ai commencé à écrire sur Fixia, où j'ai gagné un concours, et j'ai Vertige, qui est sorti, une new romance. Et voilà, après, j'écris dans plusieurs genres, pas que de la romance. Mais pour l'instant, c'est les quatre livres qui sont sortis, effectivement, qui ont été publiés, ce sont des romances. Et donc, il y a effectivement Never Let You Go, comme tu disais tout à l'heure, qui est sorti chez HarperCollins l'année dernière, notamment. Et là, plus récemment, effectivement, une romance de Noël qui s'appelle Souvenir d'une nuit. Voilà.
Et c'est effectivement de ce dernier roman dont nous allons parler dans cet épisode. Merci pour cette présentation. Élie, Le fils du Père Noël est un con, est sorti en octobre 2022 chez Hugo New Romance. Il s'agit de ton premier roman publié. Ce n'est pas pour autant ton premier écrit. Quel est ton parcours ?
Moi, j'ai commencé à écrire il y a quelques années aussi, principalement de mon côté. Au début, je commençais plutôt à écrire des dystopies. Parce que je dirais que c'est ce type de roman qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui m'a donné envie d'écrire. Et puis rapidement, je me suis tournée vers la romance parce que je me suis rendu compte que c'est au final ce qui m'intéressait le plus dans ces histoires. C'était toujours cette petite romance sous-jacente qui me faisait tourner les pages plus vite. Donc j'ai commencé à écrire d'abord de mon côté en publiant un petit peu sur Wattpad et puis quand j'ai découvert Fixia, j'ai commencé à publier sur cette plateforme. Donc j'ai quelques ébauches de romans qui ne sont pas terminées. C'est une fâcheuse tendance à ne pas terminer ce que j'entreprends. Et quelques romans aussi qui sont terminés mais bloqués au stade de premier jet. Ensuite, sur Fixia, j'ai participé au concours Sous le sapin pour lequel je suis arrivée en finale. Et donc là, j'ai pas eu le choix que de terminer et de le proposer du coup à l'édition. Et j'ai pas gagné. Hein. C'est Les Azalées fleurissent en hiver qui a gagné ce concours, qui est d'ailleurs une super romance. Par contre, je l'ai reproposé ensuite et puis c'est comme ça que j'ai pu être éditée. Voilà.
Chers auditeurs, toutes les trois, nous allons vous parler de romances de Noël, bien sûr, mais surtout, chacune de nous va représenter un esprit de la romance de Noël. Il ne s'agit pas des Noëls passés, présents et futurs du conte de Noël de Charles Dickens, puisque nous allons représenter chacune un type de romance de Noël. Je pense même que chaque lecteur et lectrice de romance de Noël se retrouvera dans l'un de ces trois esprits. Parmi toutes les parutions, chaque fin d'année, il y a des caractéristiques qui classent les romances de Noël en deux groupes, la romance de Noël et la comédie romantique de Noël. Et ici, en compagnie de Laureline et Ellie, nous irons plus loin en parlant de trois types. Pour illustrer cela, nous vous présenterons trois romans. Le fils du Père Noël est un con d'Ellie Bonner, Souvenir d'une nuit de Laureline Momla et un recueil de nouvelles Noël autour du monde de F.V. Astier, Amélie C. Astier, Alicia Garnier et Alison Germain. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Ellie, quel esprit de la romance de Noël représentes-tu ?
La comédie romantique de Noël.
Pour ma part, je vais vous parler de l'esprit de la romance de Noël. Et donc notre troisième type, Laureline.
Ce sont les autres romances de Noël. Celle justement que l'on a du mal à classer.
Pour commencer, laissons place à l'esprit des comédies romantiques de Noël. Ellie, peux-tu nous expliquer ce qu'est une comédie romantique de Noël ?
Je trouve que ça se cale très bien sur les codes des téléfilms de Noël, en fait. C'est des histoires qui ont tendance à être un petit peu courtes, avec une romance assez douce, pas mal d'humour. Et certains codes qu'il va falloir respecter. C'est pas une obligation de respecter ces codes, mais qu'on va avoir tendance à attendre, du moins, dans ce type de romance. La saison hivernale, bien sûr, qui doit être très très présente. Des codes qui vont englober la famille. Un happy end aussi. Je pense que tout ça, ce sont des éléments qu'on attend dans une comédie romantique. Et puis, comme l'indique son nom... de la comédie, quoi.
D'ailleurs, les éditeurs font de plus en plus la distinction entre romance de Noël et comédie romantique. Moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie en tant que lectrice parce que je vais pas aller en général. Enfin voilà, je lis exclusivement la romance, pas forcément des comédies romantiques. Donc c'est vrai que je suis assez contente que les éditeurs fassent la distinction sur leur couverture. Dans ton roman Le fils du Père Noël est un con, il s'agit d'une héroïne qui s'appelle Emma, qui travaille à New York. Elle a un poste prestigieux qui lui mange d'ailleurs tout son temps, en fait. Et à quelques semaines de Noël, son père l'appelle à l'aide puisqu'il a eu un accident et il ne peut plus tenir sa boutique alors que c'est le moment où il fait son meilleur chiffre d'affaires. Et donc Emma décide de tout abandonner quasiment pour venir en aide à son père. Sauf que ce retour dans sa ville natale, Holly Falls, lui réserve bien des surprises.
C'est vrai que ce pitch de départ là correspond à 100% au code des téléfilms de Noël, puisque le retour aux sources, l'héroïne un peu carriériste à New York. Après, j'espère y avoir apporté ma petite touche personnelle en jouant un petit peu des codes habituels des téléfilms de Noël et de jouer un petit peu avec les attentes. J'aime bien prendre ce petit comme un petit pied de nez au téléfilm, puisque à force on les connaît la trame, on sait très bien quand on voit le début d'un film, on se doute en général des scènes qui suivent. Donc voilà, je trouvais ça amusant de créer une héroïne qui en était tout à fait consciente.
C'est une difficulté en plus hein, d'être sur ces trames. On a des étapes en tant que lecteur qu'on attend, je pense. Et finalement, tout le challenge pour l'auteur, c'est d'en faire quelque chose qui aura une âme, qui aura de la profondeur.
Il y a une thématique que j'ai beaucoup aimée dans ton roman avec le personnage d'Emma. C'est le fait que ce retour aux sources, ça lui permet de voir sa vie d'ado sous un autre angle, hein, sous un autre prisme, maintenant qu'elle est plus âgée. Et finalement, quand elle arrive dans sa ville natale, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est la quatrième dimension ? C'était pas du tout comme ça avant. La voisine, elle n'était pas sympa avec moi, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils se foutent de moi, en gros.
Ouais, en fait, je trouve que c'est le propre du souvenir, en fait. Oui. C'est tu te construis avec cette image que tu avais à l'époque, persuadé que c'est la vérité, puisque c'est ce que tu as vécu. Mais quand tu prends de la distance avec les choses, tu te rends compte très souvent qu'en fait, ta vision des choses, elle était un peu biaisée aussi par ce que tu ressentais, par ton environnement extérieur, etc.
Oui, donc, par ton âge, là. C'est oui, voilà. Son âge est différent aussi, elle a pris la maturité.
Exactement, et puis les épreuves que tu traverses à ce moment-là, ce qui peut te perturber un petit peu tes perceptions.
Et un autre personnage, personnellement, m'a touchée. Je l'ai trouvé très, très actuel. En fait, c'est ces thématiques que tu abordes à travers tes personnages. Je les trouve très actuelles, très réalistes. Et ça, moi, je suis assez sensible à ça dans les romances. Hein. Enfin, je pense que c'est un peu le propre aussi d'une romance. Je parle de Sarah, la sœur d'Emma, qui, elle, a une problématique aussi, c'est qu'elle se rend compte qu'elle s'est enfermée dans une vie qui, finalement, ne la rend pas heureuse.
Oui, en fait, ce que j'ai bien aimé avec Sarah, c'est qu'en fait, Emma et elles sont dans la même situation, juste à des niveaux différents, pour des raisons différentes, mais elles sont toutes les deux coincées dans un quotidien qui les dépasse un petit peu, dans lequel elles se sont enfermées toutes les deux. Presque, elles s'envient un peu l'une l'autre. C'est la même thématique au final, mais apportée un petit peu différemment.
Oui, puis ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a une question de point de vue, même si le caractère rentre en jeu. Mais elles vivent la même quelque chose de similaire, mais avec un point de vue différent. Puis en plus, là, il y a l'histoire entre sœurs, donc il y a aussi des jalousies, il y a aussi des incompréhensions, des non-dits familiaux.
Mais, et puis, un peu cette facilité, tu sais, de se retourner contre sa sœur parce qu'on sait que c'est de la famille, elle ira jamais bien loin.
Oui.
Tu as une frustration que tu reporteras pas forcément sur des gens qui sont pas liés à toi parce que tu te dis ils peuvent partir.
Et pour moi, elle est là en fait la différence, la grosse différence qu'on peut retrouver en comédie romantique et par rapport à la romance, c'est qu'il y a une grosse place pour ce cheminement d'Emma qui n'entre pas en compte avec la romance qui va venir en fait dans le roman. Et justement, alors pour parler de cet aspect romantique de la comédie romantique, petite anecdote des coulisses de cet épisode du podcast, puisque comme je vous le disais, moi je lis pas beaucoup de comédie romantique. Au départ, je prends contact avec Laureline hein, pour le podcast, pour parler de la romance de Noël en général, de sa romance de Noël. Mmh. Et elle me propose de prendre contact avec Ellie en me disant, voilà, ça va être intéressant puisqu'on a deux romans qui sont complètement différents et pourtant qui sont dans la catégorie des romances de Noël et qui touchent a priori le même public. Donc voilà, je me dis, super, je vais voir le résumé du fils du Père Noël est un con, je me dis bon ça a l'air sympa, voilà je lis pas forcément dans cette collection là, mais je me dis voilà ça va être un bon moyen aussi de découvrir un petit peu. Et au moment d'acheter le livre, je relis la quatrième de couve et là j'ai une révélation, c'est-à-dire que j'étais dans le déni la première fois et là je me dis mais il y a un triangle amoureux en fait. Et en tant que bonne lectrice de romances psychorigides, moi, je refuse le triangle amoureux. Et donc voilà, en lisant, en fait, je relis le titre, je regarde la couve, le triangle amoureux, là je me dis, mais en fait c'est une comédie romantique de Noël. Et effectivement, Ellie me l'a confirmé en me disant d'ailleurs, c'est écrit sur, au dos de la couverture, chose que je n'avais pas vue puisque moi j'étais sur une librairie en ligne.
Ah oui.
Et donc voilà, par la suite, j'ai lu quelques avis hein, sur le roman qui disaient qu'effectivement, il y a un triangle amoureux, mais voilà, bon, c'est pas du tome 2 de Twilight, hein, par exemple. Hein, on ne va pas aussi loin que ça. Donc c'était assez rassurant et du coup, je me suis lancée dans la lecture en me disant, bon, bah, on verra ce que ça donne. Et non, j'ai été vraiment... agréablement surprise par ton roman, je le trouve très bien écrit aussi. Hein. On retrouve même, tu sais, dans la manière d'écrire, on retrouve ce côté comédie romantique, c'est-à-dire que c'est écrit avec beaucoup d'humour, c'est pétillant.
Ça me fait plaisir, parce que c'est ce que je cherchais à obtenir. C'est vrai, je visais une lecture légère qui fait sourire, qui apporte un peu de baume au cœur parce que voilà, les actualités sont ce qu'elles sont en ce moment et qu'on a besoin de légèreté et d'un peu de rigolade.
Pour moi, ça, tu l'as vraiment atteint. Et donc, si on parle voilà, le côté relation d'Emma, donc, elle retrouve son ex de l'époque qui s'appelle Connor et qui nous fait grincer des dents hein, quand même. Et donc, elle a fait la rencontre aussi d'un nouvel habitant de Holy Falls qui s'appelle Edward. Et là, on a vraiment une relation délicieuse qui se met en place. Dès leur première rencontre, on sent que ça match entre eux, que c'est des personnages qui sont vraiment assortis, qui se complètent. Et moi, j'aime beaucoup ça, d'ailleurs, dans mes lectures, d'avoir ce sentiment que voilà, les deux personnages, ben, c'est des deux pièces d'un puzzle, quoi. Ça colle bien entre eux, quoi.
C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé écrire dans ce roman. C'est, en fait, à mes yeux, depuis le début, c'est une évidence entre eux. Donc, je voulais le faire ressortir, tu sais, cette espèce de... en fait, le côté naturel de leur relation. L'affection qui se crée naturellement, sans que tu la cherches, tu rencontres quelqu'un et puis ça matche tout de suite, en fait.
Cette alchimie immédiate entre les personnages et Ellie, elle est extrêmement douée pour ça. Elle écrit toujours des histoires d'amour absolument merveilleuses et les interactions entre les personnages sont toujours un bonheur à lire. Parce que moi, j'ai déjà lu d'autres histoires de sa part et dans celle-ci, oui. Enfin, moi, ce que j'aime particulièrement, effectivement, c'est que ce qu'on disait, on retrouve les codes de la comédie romantique, la romance de Noël, un peu comme les téléfilms, dans la légèreté, l'humour et l'histoire, effectivement, que l'on sait, les étapes importantes que l'on connaît, tout ça, mais elle apporte une profondeur dans les personnages. Malgré la légèreté, ils sont vivants, ils ont pris corps et ils sont intéressants et très attachants. Et la chimie entre les deux, entre Emma et Edward, elle est parfaite et elle fait vraiment rêver.
On retrouve également dans le roman cette ambiance de Noël, les cadeaux, le village de Noël, une place importante de la famille aussi. Et puis, c'est le père d'Emma qui devient l'entremetteur hein, que l'on attend aussi dans la comédie romantique.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce rôle-là. Et c'est vrai que je trouvais ça un peu rigolo que ce soit le papa bourru qui essaye de la pousser dans les bras d'un homme. Surtout dans les bras de celui pour lequel il a son cœur balance à lui. C'est vrai que le fait que cet homme, pour lequel elle a des sentiments, mais qu'elle ne se l'avoue pas vraiment, soit accepté par sa famille, déjà avant qu'il se passe quelque chose, je trouve ça intéressant aussi.
Et c'est ça aussi qui adoucit, je pense, pour les personnes qui ont un peu peur aussi du triangle amoureux. On n'est pas vraiment dans le gros, gros triangle amoureux où vraiment elle a du mal à faire un choix, machin. On va pas aussi loin que ça, on reste sur du feel good. Hein. Bon, par contre, du coup, c'est un page turner, hein. Enfin, c'est-à-dire que moi je l'ai dévoré en peu de temps, j'ai passé une nuit où j'ai pas beaucoup dormi.
Je pense que ça fait partie un peu des codes justement de la comédie romantique. Les choses ne doivent pas être trop sérieuses, trop noires, trop sombres, sinon on bascule dans un autre genre. Donc un triangle amoureux dans une comédie romantique, il faut que ça reste amusant, entre guillemets.
Oui, puis comme je voulais cette sensation d'évidence, si maintenant l'héroïne hésite trop, on la perd.
Oui.
Donc, vous ne pouvez pas non plus faire un triangle. Et puis, à titre personnel aussi, dans mes lectures, j'aime que les héros... tu vois, il y a cette passion qu'on attend.
Qui se choisissent, oui, qui n'est pas d'ambiguïté.
Oui.
Si tu hésites entre deux hommes comme tu hésites entre deux pantalons le matin, ça perd de son charme.
C'est pas la même dynamique, non.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Alors, est-ce que en comédie romantique, on retrouve le même impératif que en new adult, c'est-à-dire une narration à la première personne et au présent ? Parce qu'il y a un sujet là-dessus quand même.
Ah, il y a un vrai sujet là-dessus.
Dans les avis lecture, des lecteurs qui lisent énormément de new adult, on voit souvent, c'est un roman à la troisième personne, j'ai eu du mal à rentrer dedans.
Oui,
il y a une habitude qui est prise. Est-ce qu'on la retrouve là?
Non, moi, j'interviens rapidement avant Ellie. Dans la comédie romantique, je ne crois pas que ce soit indispensable. Et je sais qu'il y a des autrices, ou des auteurs anglo-saxons qui font à la troisième personne et ça marche très bien. Enfin, ça n'est pas gênant. Donc non, je pense que dans la comédie romantique, on peut encore se permettre la troisième personne, mais pour le présent, oui. Je pense que pour la narration, le présent est conseillé. Je crois qu'il y a encore, c'est ce que en tout cas m'avait dit mon éditrice Sharper Collins, m'avait dit que chez les auteurs anglo-saxons, il y avait encore de la troisième personne. Ça se pratiquait encore.
Oui, de toute façon, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a certains codes dans la comédie romantique. On doit les connaître pour pouvoir s'en affranchir si on veut. Mm. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais dans l'absolu, on peut faire un peu ce qu'on veut dans l'écriture. Oui. On n'est pas obligé, absolument de cocher toutes les cases, mais c'est bien de savoir quels codes sont habituellement appliqués pour savoir si on a envie de les adopter ou pas, mais c'est vrai qu'à mon sens, la première personne, elle n'est pas indispensable non plus, parce que selon ce que tu veux faire de ton roman, parfois la troisième personne sera plus adaptée. Si tu as besoin d'une espèce d'omniscience, où tu vois les agissements d'un peu tout le monde pour essayer de refaire une fresque globale et après comprendre quelque chose qui était un peu dissimulé autour de toi depuis le début, je pense que la troisième personne, elle peut être très intéressante.
Il nous reste à évoquer l'esprit de la romance de Noël pure et dure, qui se trouve être en moi, en tant que psychorigide de la romance. La romance de Noël, on en retrouve un peu partout, en romance contemporaine, historique, dans les nouvelles liées à des séries. Je pense par exemple pour cette année à Ren G. Wolf qui en a fait une sur sa série sur les Bikers, Jordan L. Hawke qui en a fait sur sa série de romances paranormales. Et j'ai posé quelques questions aux lectrices et lecteurs sur les réseaux sociaux pour avoir leur opinion sur ce qu'est une romance de Noël. Ma première question, c'est: est-ce qu'il faut être fan de Noël pour aimer les romances de Noël ? J'ai eu donc 32 répondants. Pour 16% d'entre eux, oui, l'un ne va pas sans l'autre. Et pour 84% d'entre eux, non, c'est comme les thrillers, on peut aimer sans avoir de pulsions meurtrières.
Je pense que c'est vrai, on peut ne pas être un fan incontesté de Noël pour apprécier une romance de Noël. Après, effectivement, si on n'aime pas Noël, par contre, et j'en connais qui ne sont pas vraiment, qui n'apprécient pas vraiment tout l'enthousiasme que déclenche Noël, là, c'est rédhibitoire, effectivement, ils n'apprécieront pas, parce que l'esprit de Noël est bien trop présent. Et je crois qu'ils ne sauront pas apprécier l'histoire à cause du contexte.
Bah pour ma part, c'est une fête que j'apprécie vraiment depuis que j'ai des enfants, en fait. Avant, c'est vrai que j'avais pas trop d'attrait. Et par contre, j'ai pris une habitude, en fait, avec les romances de Noël qui reviennent tous les ans. C'est que ça me permet de me mettre en condition pour passer de bonnes fêtes de Noël. Parce que voilà, en général, je pense que j'ai un peu de mal à sortir du quotidien, de la routine, du travail, des activités des enfants, etc. Et là, le fait d'avoir les romances de Noël, ben, ça a ce vrai rôle pour moi d'adoucir le quotidien, de se dire, voilà, on va arriver sur la fin d'année, les fêtes de fin d'année, c'est le moment de se détendre. Et en particulier avec des lectures. Et puis en plus, ces lectures-là, moi, ça me donne des idées aussi pour fêter Noël, ça que j'aime bien aussi. Ma deuxième question dans ce sondage, c'était combien de romances de Noël ces lecteurs qui ont répondu prévoient-ils de lire cette année ? Alors, donc les réponses proposées, c'était un peu, 1 à 3 livres, et on a eu 36% vont lire 1 à 3 livres en gros. 26% vont en lire beaucoup, c'est-à-dire 4 à 6. 32% à la folie, 7 ou plus. Et 6% n'en liront pas du tout. Et vous, est-ce que vous en lisez des romances de Noël ?
Pas particulièrement. non, je ne fais pas partie des gens qui vont en lire beaucoup. J'en lirai si je vois passer voilà, comme n'importe quel livre et n'importe quel genre, j'ai envie de dire j'en lirai une si elle me donne envie, si la quatrième de couverture me donne envie.
Et toi, Ellie, tu en lis ?
Moi, j'en lis. Alors après, c'est vrai que je m'enferme pas non plus spécialement dans la période de Noël pour en lire, et je vais pas spécialement en lire énormément. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus, et j'ai déjà commencé à en lire cette année, j'en ai déjà lu deux, sans compter celui de Laureline que j'ai découvert plus tôt dans l'année, mais ouais, j'en ai déjà lu deux pour l'instant, et je me ferme pas la porte à lire encore.
Bon, pour ma part, ça m'a permis aussi de faire un petit bilan là. Bon, j'en ai déjà lu 5. J'en ai encore quelques-uns là de prévus. Et j'ai regardé l'année dernière. Bon, moi, je suis clairement dans la catégorie à la folie, hein, pour le coup. C'est devenu mon rendez-vous annuel. L'année dernière, je me disais, bon, j'en ai peut-être lu une petite dizaine. Ah non, j'en ai lu 16 l'année dernière. Pas mal. J'en lirai peut-être pas autant cette année. Je sais pas, ça dépendra des sorties, en fait, c'est vrai. Hein, ça dépend de ce qui sort. Mais bon, je pense que j'en lirai quand même une dizaine.
C'est vrai qu'avec le nombre de sorties, c'est pas le choix qui manque.
Oui,
il y en a beaucoup.
Qu'est-ce qui distingue une romance de Noël si on compare à la comédie romantique de Noël, hein, bon, ça reste évidemment des sous-genres assez, enfin, très très proches. Je pense que c'est plus dans la construction de l'histoire, en fait, hein, qu'il y a une différence. Mais sinon, on retrouve, voilà, ça reste quand même en romance, on retrouve nos deux personnages qui se rencontrent ou qui se retrouvent après quelques années. L'intrigue principale concerne bien leur relation amoureuse qui se met en place. Et on ajoute à cela ce décorum de Noël, c'est-à-dire la périodicité autour de Noël. On a la fête, hein, de Noël en elle-même, et les événements que ça provoque qui ont un rôle à jouer dans l'intrigue, qui vont rapprocher nos deux personnages peut-être. On est sur du feel good, même si ça n'empêche pas de pouvoir aborder des sujets difficiles. Et finalement, la romance de Noël, ben, ça fonctionne dans n'importe quel environnement, fantastique, historique, contemporain, etc. Pour illustrer la romance de Noël, moi, je vais vous présenter trois nouvelles tirées du recueil dont je vous parlais, hein, Noël autour du monde. Vous verrez que l'on retrouve ce qui caractérise du coup la romance de Noël, c'est-à-dire le couple de protagonistes, le décor, l'ambiance de Noël, les proches. Alors, le premier dont je veux vous parler, c'est « Let your heart be light » de Alison Germain. Dans cette nouvelle, sur ces trois nouvelles, on va être sur des formats très courts, hein, de moins de 100 pages. Et du coup, on va vraiment à l'essentiel. Donc, dans cette première nouvelle, on retrouve un groupe d'amis qui se retrouvent pour passer Noël ensemble dans un chalet en Suisse. Je vous laisse donc imaginer le décor qui est planté, hein, la Suisse, le chalet en bois. Donc on est immédiatement plongé dans cette ambiance de Noël. Et nous avons donc Iris et Achille qui sont amis de longue date. Et il s'avère que quelques jours avant ce voyage, il y a eu un presque baiser dans le noir qui a laissé Iris sur des charbons ardents. Est-ce que c'était vraiment Achille ? Est-ce qu'elle avait envie de ce baiser ou pas ? Donc on se retrouve là avec un joli Friends to Lovers qui plaira aux amateurs de strop. Entre nous, c'est quand même un trope qui est plutôt irrésistible. Donc c'est une nouvelle qui donne juste envie de se faire un chocolat chaud. Les personnages nous donnent une petite recette avec des zestes d'orange. Donc voilà, ça met bien dans l'ambiance. La deuxième nouvelle dont je voulais vous parler, elle s'intitule « Noël à Édimbourg » et elle a été écrite par Amélie Séastier. C'est une romance de Noël MM, donc une romance gay, qui se déroule donc en Écosse. Si je voulais vous convaincre de lire cette nouvelle, en gros, je pourrais le faire avec un mot, kilt. Donc oui, l'un des deux personnages est un digne représentant des Highlanders en mode contemporain. Et donc, on retrouve Thomas, qui est un Français expatrié en Écosse pour ses études. Et afin de ne pas passer les fêtes seul, il s'inscrit à un blind date pour le réveillon de Noël et c'est ainsi qu'il fait la rencontre de Fergus, un Écossais pur et dur, fier de ses traditions. Et à eux deux, ils passeront une magnifique soirée mêlant magie d'une première rencontre et magie de Noël. Enfin, moi, c'est une nouvelle qui m'a laissé un sourire extatique durant toute ma lecture. La troisième nouvelle que je vous présente est écrite par Alicia Garnier. Elle s'intitule « Noël, quelle galère ! » Et là, on a un autre trope. C'est une romance de Noël MF, hein, hétéro. Et c'est le trope de la romance au bureau, office romance. Moi, c'est un trope que j'aime bien. C'est un contexte que j'aime bien. Et donc là, on retrouve Holly et Reed, qui sont collègues depuis quelques années. Et depuis leur première rencontre, ils sont comme chien et chat. Ils se font toujours des sales coups. Et je ne vais pas en dire plus hein, sur l'histoire pour ne pas spoiler. Juste ajouter que le personnage de Reed est... je l'ai trouvé hyper romantique. Il m'a vraiment littéralement fait fondre. Il pourrait tout à fait candidater au poste de book boyfriend. Dommage que l'histoire soit si courte. Et Holly, à côté de ça, est tout aussi appréciable. Hein. C'est un personnage qui est très sarcastique, elle est joueuse. Et évidemment, elle cache difficilement ses faiblesses. Donc avec tous les romans dont on vient de parler hein, jusqu'à présent, et ceux que vous auriez pu lire, hein, enfin, moi j'ai l'impression qu'on retrouve souvent les tropes de « Friends to Lovers » ou « Enemies to Lovers » en romance de Noël. Est-ce que c'est un impératif ?
Pour moi, je ne dirais pas que c'est un impératif, mais c'est vrai que ça fait partie de ces codes qu'on va retrouver assez souvent. Je vais reprendre l'exemple des téléfilms parce que je trouve que c'est assez parlant et c'est surtout ce qui a ouvert un petit peu la porte à ce marché florissant des romances de Noël. Très souvent, dans une des tropes qu'on rencontre, c'est donc cette citadine qui revient... dans son village natal ou qui arrive dans un petit village et qui se heurte à un local, à un chauffeur de taxi ou autre. Mmh. Et au début, en effet, ça fait des étincelles et on se rend compte que ce type un peu bourru qu'elle a rencontré à l'aéroport ou sur le parking est en fait un gros nounours qui se cache bien. Et je pense que ça fait partie aussi pas des codes parce qu'on n'est pas non plus... c'est pas ça qui va qualifier l'histoire de romance de Noël ou pas, mais c'est vrai que ça fait partie de ces trames qu'on rencontre très souvent.
Oui, on retrouve un peu les mêmes rebondissements, les mêmes choses. Donc on retombe sur les mêmes tropes, sur le faux boyfriend invité à Noël dans le repas de famille, ce genre de choses, parce que ça ça plaît, on revient sur le sujet de qu'est-ce qui est attendu un petit peu. On sait que c'est que ça marche, que c'est efficace et que ça amène à des situations amusantes et cocasses et drôles et légères qui répondent bien, qui rentrent bien dans les codes du genre.
Nous invoquons maintenant l'esprit de la romance de Noël qui sort des lignes éditoriales. Laureline, qu'entend-on par ce titre ?
C'est une romance de Noël qui a les codes. On est à Noël, il y a du chocolat chaud, il y a la magie de Noël, le décorum est là. Il y a une romance, il y a des personnages qui vont vivre une histoire d'amour. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Et on n'est pas non plus dans la comédie romantique avec des scènes, avec de l'humour, avec beaucoup d'humour. On n'est ni dans un genre, ni dans l'autre. Mais ça n'exclut pas d'être une romance de Noël.
Oui, effectivement. Et je pense même que dans ce groupe de romances de Noël, ça va peut-être plus intéresser aussi des personnes qui recherchent une romance de Noël, mais sans overdose de chocolat chaud et de canne à sucre.
Effectivement, oui, peut-être que d'un côté, ça peut, entre guillemets, décevoir ceux qui sont très adeptes justement de romances de Noël et qui cherchent, ce qu'on disait tout à l'heure, des tropes particuliers ou en tout cas une intrigue qui se déroule d'une certaine façon. Mais ça peut, par contre, attirer effectivement des lecteurs qui ne sont pas forcément friands en particulier de romances de Noël, mais qui du coup vont être surpris, se rendre compte qu'il y a un peu plus, il y a autre chose. Ça n'est pas ce à quoi ils s'attendaient, et donc être agréablement surpris.
Souvenir d'une nuit et l'histoire d'une jeune femme
qui voit son quotidien chamboulé puisqu'elle perd son travail de vendeuse dans un grand magasin. Ce magasin va même fermer ses portes. Le temps d'une ultime nuit, Pepper se retrouve enfermé dans le magasin avec son collègue Joachim. Il s'agira d'une nuit pour évoquer le passé, vivre l'instant présent et s'ouvrir à l'avenir.
Oui, c'est ça. C'est une seule unité de temps, une seule unité de lieu. Ça se passe en une seule nuit, dans un seul endroit, quasiment, on va dire. Et avec deux personnages principaux, mais avec le souvenir de tous les autres. Donc, il y a des personnages secondaires, c'est juste qu'ils ne sont pas présents physiquement, mais ils sont là dans les souvenirs. Donc, il se passe malgré tout plein de choses.
Les souvenirs, c'est quasiment un personnage. Hein.
Oui, c'était vraiment le point de départ, presque. C'était aussi l'occasion justement de faire vivre tous ces autres personnages et d'expliquer pourquoi Pepper est comme elle est, pourquoi Joachim est comme il est, puisque sinon on était effectivement juste sur eux, sur ce qu'ils vivent, et ça ne nous révélait pas forcément qui ils étaient. Donc ça permettait de faire vivre, de les faire vivre et exister dans un autre temps. Alors, petit, adolescent, enfin voilà. Et c'était l'occasion, les souvenirs, c'est l'occasion de se... ça revient à ce qu'on disait en début de discussion avec Ellie. Le souvenir, ça permet aussi de voir comment on a évolué, de comprendre certaines choses, de prendre du recul sur le présent et peut-être sur l'avenir pour changer, pour évoluer et pour en garder le meilleur.
Tu m'as expliqué que à l'origine, Souvenir d'une nuit, c'était pas forcément une romance de Noël.
Oui, moi telle que je l'ai écrite au départ, je l'avais pas imaginée nécessairement à Noël. Je savais que ça serait sur une nuit. J'avais ce contexte-là et mes personnages qui devaient grandir malgré tout, évoluer, que c'était un moment clé dans leur vie et une rencontre déterminante. J'ai fait en sorte que ça se passe à Noël parce que tout d'un coup, je me disais que ça donnait une ampleur, ça donnait un contexte qui était idéal pour développer le thème de l'enfance, du passé, qui est important chez les deux personnages, et aussi le thème de l'avenir sur voilà, à quoi on peut rêver aussi à Noël.
Oui, et c'est vrai que j'ai été très surprise quand tu m'as dit qu'à l'origine, voilà, il n'y avait pas ce contexte de fin d'année, de Noël, puisque pendant ma lecture, enfin, pour moi, ça m'a vraiment semblé indissociable, en fait, la situation qu'ils vivent, le fait que ce soit Noël, la fin de l'année. Je trouve que le thème de Noël et les souvenirs, ça se marie vraiment très bien parce que là, c'est ce que je vois, moi, de la fin de l'année. Hein. Il fait froid, on se replie un peu chez soi. C'est vraiment une période où, voilà, on a l'année suivante qui se profile déjà. C'est le moment de faire le bilan.
Oui, non, mais complètement, complètement. C'est pour ça que dans mon idée au départ, je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais après, ça a été comme une évidence, parce que justement aussi, on parlait de la famille dans la romance de Noël qui est importante, qui a une place prépondérante, et là, ça prenait encore plus de saveur avec Noël, et notamment moi, avec les contes, avec les histoires que raconte la grand-mère de Pepper en début de chapitre. Parce que ça apportait ce côté, justement, oui, conte de Noël, histoire un peu hors du temps.
Ça, c'était un gros plus hein, pour moi aussi dans le livre, ces débuts de chapitre que j'attendais finalement à chaque fois.
Oui, je sais que ça a beaucoup plu parce qu'en plus, la grand-mère, elle les adapte un petit peu à sa sauce et elle en profite pour faire passer des messages.
Ouais, c'est con, c'est un petit peu des leçons de vie à chaque fois qu'elle donne à Pepper.
Et tu joues beaucoup aussi avec des symboles comme la boule à neige.
C'est ça, je voulais vraiment... Alors, ils sont enfermés dans le magasin, mais bon, finalement, pas tant que ça. Évidemment, ils peuvent partir quand ils veulent. Mais je voulais que... ils soient enfermés physiquement, mais surtout voilà, mentalement, et qu'il y ait cette métaphore de la boule à neige, parce que Pepper, voilà, elle a peur de s'attacher, elle a peur des autres, elle a peur du monde extérieur, finalement, et elle se sentirait bien rassurée si elle vivait dans un petit monde étroit, et préservée comme dans une boule à neige, parce que ça semble idyllique, mais est-ce que ça l'est vraiment? Je vous laisse en juger.
Écrire à huis clos, ça doit être un exercice aussi assez particulier pour un auteur.
Tu te prives de levier pour rendre le récit dynamique, pour créer une évolution aussi sur les personnages.
Oui, c'était extrêmement périlleux. Je n'en avais pas pris la mesure avant de me lancer. Je trouvais l'idée très chouette et j'avais à l'esprit des histoires qui m'ont beaucoup marquée, enfin, notamment un film... je cherche le nom, Before Sunrise, je crois. Un film que j'ai vu quand j'étais jeune et qui se passe sur une nuit, sur la rencontre, voilà, d'un homme, une femme qui se rencontrent et puis qui parlent toute la nuit. Et c'est tout, enfin, voilà, même si dans le contexte, ils sont dans une ville et qu'il leur arrive plusieurs choses. Mais je me suis dit, une rencontre, ça peut tout changer. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça sur une seule nuit? Et effectivement, voilà, comme tu l'as si bien dit, ça me privait de tout un tas de choses. Je m'en suis rendu compte en écrivant. Mais je trouvais l'exercice intéressant. Et puis comme on disait, comme les souvenirs s'en sont mêlés, avec les souvenirs, les événements sont là, ils sont dans l'esprit des personnages, mais quand on sait bien la force d'un souvenir, c'est comme si c'était au moment où on le vivait, enfin, ça, c'est très présent et c'est très fort, que ce soit au niveau des sens, au niveau de l'émotion, un souvenir peut nous submerger nous faire pleurer, nous faire rire comme quelque chose que l'on vit dans l'immédiat. Donc tout d'un coup, ça a permis de faire vivre le reste et de sortir des élégantes, ou même d'y rester, mais en tout cas de pas être uniquement sur cette nuit-là. Mais oui, ça a été périlleux. Et puis, mais bon, voilà, comme ces deux personnages, ils se connaissaient, mais finalement non. Voilà, c'était comme une première rencontre. Justement, en une seule nuit, il fallait qu'il y ait un condensé comme ça. Ils se livrent, ils s'ouvrent comme ils ne le feraient pas s'ils avaient plus de temps. Donc, il leur arrive finalement plein de choses. Et puis, bon, il y a quelques éléments extérieurs qui s'en mêlent.
Ce que je trouve, moi, qu'on retrouve beaucoup dans ton roman, c'est, tu sais, quand on dit qu'un lieu est habité par ses souvenirs, bah, c'est vraiment l'impression que ça donne, en fait, que Joachim et Pepper... naviguent dans les élégantes et que partout autour d'eux, tu vois tous ces souvenirs qui continuent à vivre. Moi, quand je pense à ton histoire, Laureline, ça me fait penser à un conte de Noël, vraiment. Oui. Au conte que la grand-mère de Pepper lui raconte, parce que c'est vrai que c'est un huis clos, donc tu dis que tu t'es privé de levier, t'as pas pu te servir de l'environnement autre pour créer des rebondissements, mais il n'y a pas besoin parce que tout est là, en fait. C'est vraiment une romance qui est centrée sur les personnages, les souvenirs, même si les personnages secondaires sont pas présents ou peu, parce qu'on les voit quand même dans certaines scènes physiquement. Tu ressens pas, en fait, leur absence. T'as vraiment l'impression que tout le monde est là et ça... Enfin, je sais pas comment le décrire, je suis pas une très bonne vendeuse de livres, mais vraiment, c'est une super histoire. Et vraiment, elle est toute douce. Pour moi, c'est un vrai conte de Noël, quoi.
J'ai posé une autre question aux lecteurs et lectrices de romances sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une romance de Noël si on ne parle pas de... Voir un peu si... Est-ce qu'on peut réduire ce scope hein, des codes que l'on attend dans les romances de Noël et être tous d'accord sur ça. Mais bon, au final, bah, je me retrouve avec une liste assez vaste. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve tout ce qu'on a pu se dire. On a besoin des décors, les préparatifs de Noël, la déco, les cadeaux, le sapin, les biscuits, le chocolat chaud. Il est revenu plusieurs fois, hein, le chocolat chaud, pensez-y, il y a un sujet avec ça. Mais également la neige, hein. L'ambiance en famille, entre amis, les bons sentiments, le personnage qui adore Noël aussi, qui est apprécié, la magie de Noël, qui peut être figurée de diverses manières, hein. La légèreté, les moments guimauve. Ouais, ça, c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai que quand je prends une romance de Noël, je m'attends à avoir de la guimauve. Hein. Je m'attends à faire un petit shoot de sucre. C'est la lecture doudou, mais qui n'empêche pas pour autant d'aborder des sujets difficiles. Et il y a quand même quelques demandes plus précises encore. C'est-à-dire que quelqu'un parle d'avoir un animal, un chien, par exemple. Bon, moi, je valide, hein, ça me va. Effectivement, un chien, un chat.
Ouais, c'est ça, un animal de compagnie, de toute façon, c'est une présence bienveillante, c'est une amitié, c'est la famille, ça rejoint les thèmes abordés précédemment.
Et puis, dernière chose, c'est Maria Carré. All I want for Christmas is you. Bah, c'est vrai quoi, on peut ajouter cette dimension de la musique de Noël.
Oui.
C'est vrai qu'on l'entend tellement tous les ans qu'elle fait partie des fêtes de Noël comme le sapin, comme les guirlandes.
Ouais. C'est ça, c'est devenu un hymne.
Alors, j'ai un autre exemple de romance de Noël qui sort un peu des lignes éditoriales, hein, où on retrouve bien cette ambiance de Noël, mais pas en surabondance. Et qui justement va peut-être plaire à des personnes qui aiment bien les romances, qui aiment bien le contexte de Noël, mais sans plus. Et donc je parle de la quatrième nouvelle hein, du recueil dont je parlais, c'est la nouvelle de F.V. Estier qui se nomme « Jusqu'à ce que la neige cesse de tomber ». Et moi je sais par exemple que quand je lis une romance de Noël de cet auteur-là, on va retrouver ce contexte de Noël, mais ça va être la cerise sur le gâteau. C'est parce que à côté de ça, je sais que je vais avoir une romance solide. Je sais que si je retire le contexte de Noël, j'ai toujours un livre, une romance qui tient carrément debout. Et Noël, ça se retrouve à avoir juste un habillage qui va mettre dans l'ambiance, qui va donner une petite touche en plus. Et donc là, c'est ce qu'on a hein, dans Jusqu'à ce que la neige cesse de tomber, qu'on a deux personnages, Easton et Maddox, qui étaient amis, du genre très proches, et jusqu'au jour où il se produit quelque chose qui les sépare. Et là, on les retrouve 3 ans plus tard. Ils sont contraints de s'embarquer pour un road trip dans les territoires enneigés du Canada. Donc, on retrouve notre huis clos ici aussi, hein, mais bon, sur un format plus court, hein, puisque c'est une nouvelle. Et ce huis clos, bah, est-ce qu'il va leur permettre justement de mettre les choses à plat et de se parler à nouveau ? C'est tout l'intérêt de cette nouvelle. Et donc là, on a un « Friends to enemies to lovers hein. ». Et donc, c'est surtout une histoire de seconde chance. Et je trouve que c'est un thème qui marche bien aussi pour avoir une lecture doudou. Comme mentionné tout à l'heure, c'est souvent des thèmes qui sont... Moi, je trouve ça très émouvant, en fait, la seconde chance. Parce qu'en général, on débute avec un personnage qui dévoile une blessure du passé, qui a du mal à guérir. Et on sait que ça ira mieux par la suite. Donc, et on voit comment il va en sortir grandi. Pour clôturer ce sujet des romances de Noël, est-ce que vous avez des romans ou des téléfilms à conseiller à nos auditeurs ?
Moi, j'ai prévu de lire Karen Ponte, qui, je sais, fait des très belles romances de Noël, des très beaux livres de Noël. Donc, voilà. Et après, non, je reste sur un incontournable film de Noël, qui est Love Actually, qui, pour moi, est le meilleur film de Noël parce que justement il coche les cases et à la fois je le trouve je pense que c'est pour ça qu'il marche si bien parce que il raconte des histoires vraies quand même il nous fait rêver bien sûr qu'il y a des choses totalement improbables et qui nous permettent de rêver mais il y a aussi parmi tous ces personnages moi j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs histoires qui s'entrecroisent il y en a qui sont tristes quelque part aussi qui sont vrais hein, voilà, dans le couple, dans la relation familiale, qui sont émouvantes, voilà, et on passe par différents sentiments, différentes émotions. On rit, on pleure, je trouve que ça, pour moi, c'est ça l'esprit de Noël, c'est la famille, c'est plein de choses, mais c'est pas toujours. C'est pas toujours gai et drôle. Ça peut aussi être des secondes chances, effectivement, des rapports plus compliqués, mais que l'on peut-être on met un peu de côté pour cette période de Noël, justement pour croire que ça peut s'améliorer, ce que tu disais tout à l'heure, pour croire qu'on va vers le meilleur.
Élie, est-ce que tu penses à des livres ou des téléfilms ?
Oui, du coup, moi j'en ai un petit peu.
J'ai une liste.
Non, je dirais pas que j'ai une liste, quelques-uns. Notamment celui de Laureline déjà. Et sinon, c'est vrai que cette année, j'en ai lu que deux, mais pour le coup, c'était des réussites. J'ai lu Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia City et Snowy Little Lies de Fanny Dell qui étaient tous les deux très très bien, rigolos surtout. Sinon, je crois que je recommanderais aussi Les Azalées fleurissant l'hiver, qui est une romance de Noël, mais qui est un peu atypique aussi, puisque on n'est pas dans la comédie et on n'est pas dans le décor habituel.
Oui, c'est ce que j'y pensais tout à l'heure, ouais, de dire qu'il y en a qui tentent aussi de faire, de changer un peu ces choses-là, ces codes-là. Et je pensais à ce livre-là.
Et c'est justement super intéressant parce que du coup, tu vois Noël, mais ailleurs, quoi. Avec d'autres filtres que ceux qu'on a l'habitude de voir d'autres traditions. Et c'est super intéressant. Et l'histoire est superbe.
Alors, nous voici arrivés au moment de la question dilemme. Les filles, est-ce que vous préférez que votre romance de Noël soit adaptée en téléfilm de Noël sur Netflix, mais que ce soit un gros navet avec de mauvais acteurs et des dialogues insipides, ou que votre romance de Noël ne soit pas du tout adaptée.
Ah,
moi je préfère pas adapter.
Alors oui, parce que bon, est-ce vraiment un dilemme?
Ah, je sais pas, parce que c'est vrai que voilà, quand t'as un roman qui est adapté, je pense que ça génère quand même beaucoup de choses, oui, en termes de reconnaissance.
Alors, moi, je crois que à travers ce qui a été dit sur moi et sur mon livre, on comprend très vite que je vais choisir de ne pas être adaptée, puisque j'accepte volontiers d'être un petit peu à côté de ce qui est attendu. Donc je sais que je vais pas forcément rencontrer le plus grand public, enfin voilà, ce que les gens attendent. Mais je préfère que ça touche en plein cœur, même si ce n'est que quelques personnes, mais que ce livre leur parle réellement, que cette histoire leur procure des émotions authentiques et qu'ils se retrouvent dans mes personnages. Plutôt que voilà quelque chose qui dénaturerait mon histoire, puisque j'ai pas voulu l'adapter pour qu'elle rentre dans des codes, donc je la laisserai comme ça et je laisserai vivre mes personnages comme ils sont.
Ouais, non, je préfère aussi qu'ils soient pas adaptés parce que c'est vrai, comme tu dis, ça peut amener certaines choses en termes de reconnaissance, mais être reconnu pour quelque chose que t'as pas créé et que t'as pas voulu créer comme ça, pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Après, j'avoue que si l'acteur choisi est Tom Hardy, on peut en discuter.
Non, on a dit un acteur insipide, on n'a pas dit Tom Hardy.
Ah, c'était un acteur insipide. Ah bah alors, non, mais c'est vrai que là, du coup, il n'y a aucun risque que ce soit lui. Bon, bah dans ce cas-là, non, aucun.
Pour terminer, quelles sont vos actus? Est-ce que vous avez des romans à paraître ou en cours d'écriture ou des salons sur lesquels on pourrait vous voir?
J'ai pas d'actu en termes de dédicaces ou salons autres à venir dans l'immédiat. Sur d'autres projets, j'y travaille, mais j'ai du mal à trouver le projet qui me porte pour l'instant. Je cherche.
Oui, moi je suis actuellement dédicace pour Souvenir d'une nuit, justement dans diverses librairies. On peut trouver les dates sur mon Instagram. Et je suis, oui, sur plusieurs projets, une fantasy, une histoire de sorcière que je suis en train d'écrire. Et après, j'ai plusieurs romans qui sont déjà écrits et que je corrige. Et après, reste à déterminer s'ils sortiront en maison d'édition ou en auto-édition.
Merci beaucoup Laureline Momla et Élie Bonner d'avoir partagé votre vie d'auteur et de lectrice sur ce podcast.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode en entier. À vous de me dire maintenant quel esprit de Noël êtes-vous. À bientôt pour un nouvel épisode.